pourquoi lisons-nous? Et on enquête sur la lecture comme expérience. Christophe Anna et Pierre Zawi, lire l'argent.
Je voulais juste présenter un peu plus Christophe Anna, qui est poète, comme Claire disait, mais qui travaille beaucoup à partir de l'enquête et qui, en 1997, a fondé la rédaction. Et vous avez écrit beaucoup à partir des données réelles, dans les quartiers où vous avez interrogé des gens avec le même dans la famille, à partir de cette situation d'otage à lui. Et aussi, vous avez pour moi, une réflexion très intéressante où la poésie entre dans le terrain, qui peut avoir des actions concrètes.
Une des choses qui est le plus, pour moi, qui est le plus difficile quand on fait des enquêtes, et c'est à mon avis une des choses qui fait que les enquêtes sont poétiques, c'est la question de l'intéressement des enquêtés. Souvent, on pense qu'on va sur un terrain, tout le monde va répondre à nos questions, et on n'est pas tellement sûr que ça va être le cas en général. On pose des questions aux gens, pourquoi ils répondraient? Pourquoi ils seraient d'accord pour vous donner des réponses, surtout sur des sujets comme par exemple l'argent? On n'a pas forcément envie de déballer notre vie intime, à quoi l'argent est lié. En réalité, on se rend compte que très souvent, les sujets qui nous intéressent le plus, sur lesquels on aimerait avoir des enquêtes un peu trépidantes, un peu intéressantes, ce sont des sujets sur lesquels on n'a pas envie de se répandre, on n'a pas envie forcément de répondre. Alors, une des choses que j'avais tendance à faire, et que je vais faire ici, puisque autant parler concrètement de la façon dont on écrit un livre en le vivant directement, une des choses que j'avais tendance à faire quand j'écrivais ce livre sur l'argent, c'est que je troquais la demande qui m'était faite de faire une intervention comme celle-ci contre une expérience d'argent. Je vous donne un exemple. Quelqu'un me disait « Ah, monsieur Anna, vous êtes un poète intéressant, venez faire une lecture. » Moi, ça ne m'intéresse pas tellement de faire des lectures parce que ça ne fait pas tellement progresser mon écriture de lire. En fait, je préfère utiliser le contexte des lectures pour produire des informations qui vont m'aider à écrire. Et donc, je disais à cette personne, je veux bien venir, mais en fait, je ne vais pas faire de lecture, ou si vous voulez, je vais faire quelque chose qui peut-être vous intéressera comme une lecture, mais qui, moi, m'intéressera pour mon écriture. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va se mettre dans une situation où quelque chose concernant l'argent va émerger. Des informations qu'on n'a pas, des choses un peu inédites, des expériences, je dirais, sensibles, parce que l'argent, c'est quelque chose de sensible. Et alors, j'ai fini d'écrire ce livre, mais en réalité, on peut continuer de l'écrire ensemble. Et ce soir, je vais vous dire comment ça s'est passé pour ce soir. Moi, j'habite à Lyon, à côté de Lyon, à Villeurbanne, et j'enseigne à mi-temps dans un établissement, disons, de banlieue, ce qu'on appelle les lycées de banlieue. Pour ça, je gagne à peu près entre 2200 et 2300 euros par mois. Pour la soirée d'aujourd'hui, on m'a proposé, enfin c'est Christophe.
Je pense que c'est plutôt les tarifs syndicaux.
Voilà, donc je ne vous demande pas de vous justifier tout de suite. Mais alors, pour la soirée d'aujourd'hui, on m'a proposé de venir pour faire le speech et le show là, que je suis en train de faire, que je viens de démarrer. On m'a proposé 236 euros. Je pense qu'il s'agit de 236 euros nets, c'est-à-dire que je vais les avoir dans ma poche pour en faire ce que je voudrais, même s'il faudra que je les déclare, mais c'est la somme qui m'a été proposée. Alors, j'ai pas tellement hésité, la seule condition que j'ai émise, c'est de faire en sorte que ce show se passe pendant mes vacances scolaires, ce qui est encore le cas. Mais j'ai dit à peu près tout de suite oui. Et moi, donc là, j'ai tout de suite une première question à te poser. Enfin, en fait, j'en ai deux dans une. Pourquoi m'avoir, moi, proposé 236 euros et puis l'autre question, combien vous allez avoir pour participer, animer cette soirée et subir ce que je raconte? Et Pierre, vous, toi,
oui.
Combien on va te donner?
Rien.
Alors, voilà, la question que j'aimerais... Voilà. J'aimerais qu'on démarre, ce serait là-dessus. Pourquoi 236, pas 500?
C'est pas moi qui ai choisi, c'est plutôt la bibliothèque qui a choisi ce tarif. Normalement, je suis payé pour faire la com du cycle, mais comme il y avait des problèmes de financement, je ne suis pas encore payé jusqu'au présent. Normalement, pour chaque rencontre, il y a 75 euros qui seront donnés, mais on dépense environ 30 pour la communication. L'argent qui me reste, je paye taxe de mon 4% en tant qu'entrepreneur, parce que c'est le tarif libéral pour des professions libérales.
Mais alors, tu ne touches rien pour cette soirée?
Pas jusqu'au présent, j'ai touché rien.
D'accord. Est-ce que tu trouves ça juste que moi, on me donne 236 euros, qu'on ne me dise pas que tu touches rien et que Pierre non plus?
C'est clair qui j'ai organisé cette soirée.
Claire gagne beaucoup plus.
Non, mais elle a acheté ce livre de l'argent de sa poche parce que les fonds de la bibliothèque sont jusqu'au présent bloqués. Du coup, tout le monde travaille ce soir.
Alors, je poserai ma question différemment. Comment, par exemple, quelle hypothèse
tu émettrais ? Je ne crois pas que tu repartiras avec des 230.
c'est intéressant de voir que tout de suite, hein, ça crée... quelle hypothèse tous les deux vous pourriez formuler pour comprendre 236 plutôt que 300, 500, 1000 ? Imagine que j'ai négocié en demandant plus. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu. Comment quelle hypothèse vous formuleriez pour essayer de comprendre ça? Qu'on se soit lié à ça, qu'on se soit soumis à cet ordre-là? Comment ça, d'où ça vient? Ces 236, ils tombent du ciel comme ça?
Claire, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Alors effectivement, comme tu disais, c'est le tarif syndical qui est ordonné par la Maison des écrivains et de la littérature. Donc c'est une convention qu'on passe avec eux. Et donc eux règlent la moitié de cette somme et la bibliothèque l'autre moitié. Mmh. Et c'est le même tarif pour tout le monde. Voilà.
D'accord, Claire. J'entends cette raison. C'est une raison qui est intéressante. Mais quelle hypothèse vous formuleriez pour la justifier malgré tout?
Parce
j'imagine que si vous appliquez un tarif syndical, c'est que vous êtes quand même d'accord avec cet ordre imposé par ce tarif. Et donc cette maison des écrivains qui impose des valeurs de cette façon. Je soupçonne que vous le trouvez juste, ce tarif, sinon vous ne l'auriez pas appliqué. Et j'aimerais bien, puisque probablement vous le trouvez juste, que vous me formuliez quelques justifications.
On n'a pas d'autres repères, en fait. On ne connaît pas d'autres montants que ça. Donc, pour l'instant, ça nous paraît... C'est déjà mieux que rien, on va dire.
Parce que, ça, c'est sûr.
Au départ, on a débuté, on ne savait même pas qu'il y avait un tarif et on invitait des intervenants sans rien leur proposer. Ensuite, on s'est intéressé
cette possibilité de financement, parce que sans le financement de la Maison des écrivains de la littérature, cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu.
Non, mais ça, je comprends bien. Mais moi, ma question était un peu différente. Bon, je ne veux pas insister, mais quand même, c'est intéressant d'insister, puisqu'on est là pour faire un show. On n'est quand même pas non plus soumis à trop de politesse. On peut être un peu hors de l'orthodoxie. Vous n'avez pas d'hypothèse pour justifier ces 236
euros? Si, moi.
Ah, Pierre, alors.
Moi j'ai lu ton livre et moi j'aurais dit 330. Pourquoi 330? Ton hypothèse fondamentale, c'est que je pense que ton intervention de ce soir ne vaut rien en soi, n'a aucune valeur. Le principe de l'argent, ça fait longtemps que c'est déconnecté, qu'on s'est déconnecté de toute valeur travail, de toute valeur utilité, et ça vaut, et surtout que ton livre est pris, tu fais de la poésie, donc c'est pris entièrement dans la Star Academy, dans la Star Economy, c'est-à-dire que les prix sont entièrement déterminés en fonction des stars, et globalement, il y en a quelques-uns qui gagnent énormément d'argent, et les autres, ils ne gagnent rien. Donc, globalement, aucun texte et aucune œuvre, bon, mais ça, on le sait depuis Duchamp, n'a une valeur intrinsèque. Donc, à partir du moment où le marché, on vit dans un système capitaliste avancé, n'a plus de valeur, globalement, c'est une question de concurrence sur le marché et dans le champ. Alors, il y a encore des syndicats, mais grâce à notre gouvernement, on n'aura bientôt plus du tout, donc il n'y aura plus de tarifs qui seront fixés du tout. Et c'est pas parce qu'on Christopher ou Claire l'ont utilisé pour toi qu'ils l'ont trouvé juste. Moi, par exemple, j'ai un salaire. autour de 3 000 euros. Je suis vieux, je considère que je suis mal payé. Et c'est pas pour autant que je vais arrêter d'enseigner et que je vais faire autre chose, parce que c'est difficile à trouver. Donc il y a plein de choses qu'on trouve très injustes, qu'on trouve pas que c'est leur juste prix, comme Saint-Thomas d'Aquin. Et je crois pas qu'on vit encore dans le monde de Saint-Thomas d'Aquin. Et donc je pense que ces 234 euros, ils sont d'un arbitraire total. C'est-à-dire que c'est absolument déconnecté avec la valeur de ton... et qu'après ça, le fait d'imposer ce prix-là fait que cette performance, c'est pas le prix du livre, c'est le prix de la performance, va déterminer, peut déterminer dans le champ après un certain nombre de négociations. Quand tu seras invité par Nanterre, tu pourras dire à l'Université de Paris, ils m'ont payé 236 euros. Voilà, je sais pas, c'est une hypothèse. Donc l'hypothèse, c'est qu'au fond, la valeur qu'on attribue à ta performance est liée à la déconnexion totale de l'argent, de toute théorie de la valeur.
Donc, ce que tu me dis, c'est que ça aurait pu, par exemple, être une autre somme.
Absolument, ça aurait pu être 10 euros, ça aurait pu être rien, comme pour moi.
Alors comment ça se fait que c'est 236 ? Quand même ça, il faut quand même, il y a quand même une petite raison derrière.
Ah, alors là, après, il faut demander au syndicat comment ils sont arrivés à ce genre de... D'accord. Alors ça, il y a une histoire. Ça, je suis sûr. Moi, je n'ai pas l'hypothèse parce que je ne connais pas ce type de négociation, mais je suis absolument sûr qu'il y a une histoire. Pourquoi on est aujourd'hui à 236 ? Il va y avoir une certaine somme qui a été déterminée de la même manière que pourquoi, pour un prof, le tarif horaire et notre salaire, pourquoi je gagne à peu près, ou pourquoi un professeur de lycée gagne à peu près telle ou telle somme, c'est parce que c'est calculé en fonction, c'est une heure pour 3 heures, c'est des cadres. Défini syndicalement, bon. Mais encore une fois, on peut en discuter, mais c'est en train de disparaître, puisque faire disparaître tout ça aujourd'hui. Alors, mais ça, c'est l'histoire de négociation. Et de ce point de vue-là, le prix, il est fixé soit par l'état du marché, par l'offre et la demande, soit par l'état des négociations politiques, notamment pour la fonction publique. Là, en l'occurrence, la performance de ce soir, c'est moins l'état du marché que l'état des négociations. La maison des écrivains a pu avoir par rapport à la subvention. Je ne connais pas l'histoire, mais il y en a une.
En fait, on ne connaît pas l'histoire.
Non, on ne connaît pas l'histoire.
Bon, on va peut-être retenir qu'on ne connaît pas l'histoire et que c'est tout le temps ça qu'on dit. Hein. C'est intéressant. Il y a quand même une autre chose que tu as dite là que je trouve assez passionnante. Tu m'as dit, bon, finalement, la valeur des choses est complètement déconnectée de leur prix.
Hein. Ouais. Ou alors il n'y en a pas.
Ou alors il n'y en a pas, mais donc on met des prix quasiment au hasard. Parce que finalement, quand on ne connaît pas l'histoire, on peut dire que ça relève du hasard. Si ce n'est pas écrit, s'il n'y a pas d'histoire qu'on connaît. Enfin, ça tombe un peu comme au hasard.
Ouais.
Mais tu me dis, et ça je trouve ça fascinant, tu me dis, finalement, ce n'est pas juste, la question de la justice, ou de la justesse, ne se pose pas, mais je le fais quand même, comme par exemple, mes cours de philosophie, ils ont un certain prix, ce prix est déconnecté de leur valeur, bon, mais je le fais quand même. D'un autre côté, ce que je trouve assez fascinant et inquiétant, c'est que, quand même, les prix... Ça concerne beaucoup de choses, de ce qu'on fait dans la vie. Par exemple, on achète de l'eau, on paye notre électricité. Hein? Bref, ça se répand partout. Ça se répand partout dans notre existence. Jusque-là, je pense que tu ne me diras pas non.
Et de plus en plus.
Et de plus en plus. Donc, si je te suis, on est quand même souvent conduit à agir, finalement, sans se poser la question de la justice de ce qu'on fait.
Oui, bien sûr. Je pense que la plupart des gens se moquent de la justice. Ouais.
Alors, finalement, donc, à quel moment la question de la justice de ce qu'on fait, ou la question de la justice d'un prix, ou la question de la justice d'une valeur accordée généralement, va se poser ? Finalement, elle va occuper quel domaine, quel territoire, cette question ? Est-ce que cette question elle est complètement obsolète ? Elle n'a plus aucun intérêt ?
Le monde néolibéral d'aujourd'hui dit que cette question n'arrive vraiment plus aucun intérêt.
Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je pense que l'expérience de la justice, on voit la plupart des hommes, ça vaut pour l'argent, mais ça vaut pour tout. Puisque l'enjeu, au fond, ce à quoi on assiste, si on parle de l'argent comme ça, et c'est intéressant de parler de l'argent, c'est quand même aussi pour essayer de comprendre comment, depuis 40 ans, toutes les sphères ont été marchandisées. Là, c'est beaucoup plus ancien, ça a 2 siècles, mais il y a eu une accélération quand même de l'histoire. Depuis la mise en place des politiques néolibérales à peu près partout dans le monde, qui font que, pour employer un gros mot, mais qui font que, si on peut définir l'une définition possible du néolibéralisme, c'est de faire qu'il n'y ait plus aucune région de la vie sociale qui soit déconnectée du marché. Que tout soit un marché, et là, l'enjeu des réformes, la réforme des retraites, etc., pour l'éducation, c'est très clair, c'est faire de l'école, de la maternelle à l'université, un marché intégral.
D'accord, d'accord,
bien entendu. Se vendront, etc. Mais moi, je parle pour moi. Mais il me semble que la justice et le besoin de justice naît dans le sentiment d'injustice. Mm-hmm. Naît dans le sentiment d'injustice. Alors,
par exemple, pourquoi aujourd'hui ?
Par exemple, aujourd'hui, quand on reçoit le mail, d'ailleurs, ni Claire ni Christopher m'avaient répondu. quand on reçoit la première invitation, à l'époque c'était 150 euros, ce qui vient. On reçoit la première invitation, il répond, super, voilà, parce que j'appartiens à l'université, moi il n'y a rien. Et Christophe, il a 150 euros. C'est dégueulasse. J'ai aucune réponse. mais je trouvais ça injuste. Donc à ce moment-là, je me dis, pourquoi la justice ? Moi aussi j'ai écrit un bouquin sur l'argent. Après tout.
Et comment tu l'as compris ?
C'est dégueulasse. Comment je l'ai compris ?
C'est-à-dire cette exclamation que tu as proférée intérieurement, mais tu es venu quand même ?
Ah bah oui, je suis venu quand même. C'est mon université, c'est la bibliothèque, et que j'ai ça fait partie, là tu te dis, ça fait partie du service. Si j'avais été invité, bien sûr, ça fait partie du service.
Et pourquoi ça ferait partie du service ?
Parce que je tiens à mon université. Je tiens à cette bibliothèque, même si...
Ça, tu vois, ça, c'est vraiment fascinant, Pierre. Je te le dis, hein, parce que, tu vois, ce sentiment que tu as là vis-à-vis de ton université, que tu dis comme ça devant tout le monde, c'est quelque chose... Là, tu viens de dire quelque chose qui n'est pas sans valeur. Je vais te dire pourquoi, parce que je crois qu'aucun des profs de mon établissement, de mon lycée, de banlieue, ne dirait ça. Par exemple, hein, je te donne un exemple. Juste avant de venir... Je reçois un mail extrêmement paniqué de ma proviseure qui me dit « Monsieur Anna, c'est une catastrophe. On n'a pas de professeur pour corriger les bacs blancs des élèves. Ils sont tous malades. Est-ce que vous seriez d'accord pour les corriger ? Nous vous payerons en HSE. » C'était indiqué dans le mail. Autrement dit, elle devait savoir...
HSE, c'est les heures supplémentaires.
Heures supplémentaires. Donc elle devait savoir que aucun prof n'aurait accepté de corriger ses copies de prof absent. Parce qu'évidemment, il n'y a aucune espèce de, je crois qu'on pourrait dire ça, d'affiliation à l'établissement. Ouais. Et que la seule possibilité de faire quelque chose en plus, ce serait de donner des sous.
Ça ne tient pas très bien à l'analogie, parce que moi, on m'aurait payé 5000 euros d'HSE si c'était des copies, je ne serais pas venu. Mais
on ne t'a jamais proposé des copies, mais on te propose...
Mais même, on me proposerait des milliards pour des copies, je ne viendrais pas. Ouais. Mais c'est autre chose, parce que ça, c'est quand même le coin dur du métier. Mais tu viens en râlant, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est que fondamentalement, si tu as fait de la philosophie, tu ne l'as pas fait pour l'argent, ou alors tu es un peu con. Donc tu peux râler, c'est pas la motivation première de mes cours, même si j'ai besoin de me nourrir, si le jour où il ne restera que l'argent, je ferai autre chose. Donc fondamentalement, c'est que le rapport à ce que tu fais n'est pas déterminé par l'argent. Et c'est l'enjeu que je trouve. Ça, je peux râler quand je vois que c'est énoncé aussi frontalement, sans prendre la moindre pincette. Elle peut trouver ça un peu brutal. Ah, mais bon, on se dit, t'es poète. Et les poètes, personne ne vous livre. Donc, très très peu de gens. Ah, à part Victor Hugo. Mais bon.
Alors, si c'est
quoi, il y a des descendants,
comment est-ce que tu pourrais. Parce que moi, j'aurais envie de te poser cette autre question. Ce serait quoi cette autre valeur de la philosophie ? Comment on pourrait la définir, la cerner au moins, essayer de la décrire ?
Ah, bah, d'abord, effectivement. D'abord, on serait dans la philosophie, on est du côté de l'inévaluable, à mon sens. Ce que ça vaut, c'est du côté de l'ordre de l'inévaluable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'inscrire sur une échelle de valeur, puisque c'est ce qui crée ou ce qui produit de la valeur. Nous sommes, dirait Nietzsche, les grands donateurs de valeur. Nous sommes la source originelle de la valeur.
Mais pourtant, en tant que philosophe, Pierre, j'imagine que tu es évalué de la même façon que moi, en tant que professeur.
Mais cette évaluation ne vaut rien. Imagine que tu puisses évaluer la source fondamentale de toute valeur. D'accord ? Nous sommes des créateurs de valeur, donc il n'y a pas d'évaluation possible de la création de valeur. Comme il n'y a pas d'évaluation possible de la création du monde. Ou si on en faisait une, ce ne serait pas terrible, ce serait assez basse. Mais... Non, je dis ça un peu par provocation, mais il y a une prétention quand même du discours philosophique à se détacher des falsabona, des faux biens, et de la déshonneur, de l'argent, qui sont des types de mesures qui mesurent des biens matériels fondamentalement sans valeur. Donc ce qui a de la valeur, est absolument inévaluable par les termes d'argent. Et ça vaut pour tout ce qui a de la valeur sur cette terre. C'est-à-dire qu'on est dans... C'est là où la philosophie, telle que je la conçois, se pense comme absolument opposée à ce type de système économique comme ce qui règne aujourd'hui. Après, je pense, si je viens, la seconde raison pour laquelle je viens, c'est que je pense que c'était l'une des trucs qu'on pouvait défendre aussi dans notre bouquin sur la France, c'est qu'on doit le parler, l'argent. Il ne faut pas que l'argent soit, parce que c'est un truc de riche et de nanti, au fond, de ne pas vouloir parler de l'argent. Ah, ouais. Que les enjeux politiques dans un monde qui est un monde, une société de marché, il faut en prendre acte, si on ne parle pas l'argent, c'est justement pour en faire des affaires politiques et pas des affaires silencieuses. Ah, par exemple, si on a un certain salaire dans cette université, ou si tu es payé à un tel niveau, c'est quand même parce qu'il y a eu un certain nombre de négociations syndicales qui ont fixé ces salaires, et connus par tous, c'est connu, et chaque prof ou chaque intervenant à la MEL, à la Maison de la Poésie, etc., peut savoir combien il gagnera. Dans une université américaine, si tu n'es pas chairman, tu ne sais pas combien tu peux gagner. Et les salaires des profs peuvent varier de 4 000 à 50 000 dollars. Et tu ne sais pas, ça met une ambiance absolument merveilleuse dans le corps enseignant, mais on ne sait pas du tout combien on est payé. Parce que chacun négocie, suivant son aura, etc., ses propres salaires. Et de ce point de vue-là, il me semble que c'est il faut parler d'argent, et c'est bien d'en parler, c'est bien de parler de ces affaires de justice et d'injustice. Alors maintenant, j'aimerais te retourner la question. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que tu sens que d'être le seul payé, au fond, ici ce soir, je crois pas que le public a été payé. Ça arrive des fois, mais je crois pas ce soir. Enfin, vous le dites si c'est le cas. Est-ce que toi, ça te met mal à l'aise ou pas du tout?
Non, pas du tout. C'est ça qui est étonnant. Non, c'est vrai, pas du tout.
Est-ce que tu as un sentiment d'injustice ou pas? Ou de justice? Ou alors tu nies la nuit?
Ça, c'est vrai, c'est vraiment très délicat, cette histoire de sentiment de justice ou d'injustice. À chaque fois qu'on me donne de l'argent pour faire des shows comme celui-là, la première des questions que je me pose, c'est quels ont été les termes de la négociation? Pourquoi cette somme-là plutôt qu'une autre? Pourquoi plus? Pourquoi moins? Pourquoi finalement on me donne ça? Et donc je me demande pourquoi. Et puis comme toi, je me dis, ce qui va compter, ce sera plutôt que la situation soit drôle, et que la drôlerie de la situation, le caractère un peu euphorisant de la situation, et puis le fait que la situation va faire émerger un certain nombre d'éléments de savoir que j'ignorais auparavant, m'intéresse un peu plus que la hauteur de ce qu'on va me donner. Donc souvent je dis oui. À partir du moment où je me rends compte, en fait, le calcul que je fais, c'est est-ce que je vais être vraiment perdant? Est-ce que ça va m'appauvrir, le fait de venir? Donc c'est un calcul entre l'ennui, les trajets, le temps, etc. Je me pose ces questions. Puis quand je vois, comme ça, vu de nez, que ça va pas m'appauvrir, je viens. C'est à peu près ça, le calcul que je fais. C'est très naïf. Après, je me dis aussi...
Mais t'appauvrir pas en termes financiers?
M'appauvrir, oui, je fais une sorte de très mauvais calcul, dans des zones qui sont incommensurables, qui se trouvent mélangées. M'appauvrir aussi en termes financiers, mais surtout en termes de fatigue. Et tout ça est pensé dans une sorte de boule, un peu de magma, un peu informe. Et je me dis, c'est une sorte de... Comment dire de bilan un peu anarchique, illogique, qui fait que je me dis, à la fin, je ne suis pas perdant, trop, cette affaire. Et évidemment, comme on est obligé, la situation de l'argent et son type de fonctionnement et celui que tu viens de décrire, on a énormément de mal à évaluer si on est perdant ou pas, a priori, à le calculer, à l'anticiper.
Déjà, si tu penses en termes de gagnant et de perdant, c'est que tu es pris dans la matrice symbolique de l'argent.
Pas forcément. On peut être gagnant sur le plan affectif du terme. Par exemple, quand tu te demandes si tu veux aller à ton rendez-vous plutôt avec Rosette ou Jacqueline...
Parce que déjà, tu es dans une conception avec Gary Baker.
Non, mais tu es obligé de choisir. De toute façon, tu ne peux pas te diviser en deux.
Mais tu ne peux pas te diviser en deux, mais tu ne choisis pas nécessairement en termes de gagnant et de perdant. Tu peux aussi choisir Jacqueline regarde l'idiot de Dostoïevski, mais il est amoureux d'Alexandra Filipovna et il va voir l'autre alors qu'il est perdant. Tu peux te déterminer par des choix qui ne sont pas du tout des choix de gagnant et de perdant. Ça peut ne pas être du tout le critère de ta détermination. C'est déjà parce que tu es néolibéralisé à mort.
Non, c'est pas, je ne crois pas que ça soit ça. Quand on parle
tu penses entre
non, non, gagner ou perdre, ce n'est pas perdre quantitativement. Ça peut être perdre quelque chose qui soit pas réductible en termes quantitatifs. Et c'est plutôt ça que je fais comme type de calcul, de projection.
Christophe, est-ce que tu peux parler de ton dispositif actuel dans l'évaluation, l'évaluation en général? Parce qu'il me semble qu'il y a un lien tissé entre ce travail plus ancien et l'évaluation des performances évaluatives que tu fais, des choses qui a priori ne sont pas évaluables et que tu mets des critères qui ne sont pas forcément les bonnes.
Quand j'ai terminé de travailler sur l'argent, je me suis rendu compte que l'argent, c'était une forme d'échelle qui permettait de donner de la valeur, une sorte de valeur objective, parce que, évidemment, personne ne sait vraiment définir l'argent, c'est une sorte de notation, en quelque sorte. Ça fonctionne comme une notation. Et je me suis dit que quelque chose, peut-être, pourrait être intéressant, c'est d'aller en dessous de l'argent, c'est-à-dire de réfléchir sur ce qui donne du crédit. Parce qu'au bout du compte, l'argent, comme ça n'existe pas vraiment, on ne sait pas vraiment le définir, ce qui est important, c'est ce qui donne du crédit. Et la question est de savoir qu'est-ce qui donne du crédit. Et donc, je me suis demandé qu'est-ce qui donnait du crédit, comment on fait pour savoir ce qui donne du crédit, comment on fait pour essayer de trouver comment finalement les gens se donnent du crédit, quels sont les dispositifs qui font qu'on se donne du crédit. Il y en a plein. Des dispositifs comme ça, qui sont produits par les organismes qui font du commerce, par exemple. Par exemple, comme dispositif qui donne du crédit, il y en a un qui passe par l'écriture, poétique ou pas. Et le premier qui m'a intéressé, c'était les clients d'Amazon. Ils achètent des produits et ils mettent des évaluations. Quand vous êtes comme Pierre ou comme moi, il y a toujours quelqu'un qui, à un moment, va vous mettre des notes ou va vous évaluer. C'est-à-dire, c'est un bon prof, il a publié tant d'articles dans telle revue, à tel niveau. Ou ses cours sont pas mal, ses élèves sont pas trop turbulents. On vous met une évaluation qui prend souvent la forme d'une évaluation chiffrée. Mais ça n'est jamais seul. Ça n'est jamais que ça. C'est aussi un texte. Il y a de l'écriture dedans, un peu. De l'écriture sous forme phraséologisée, disons. Un texte, quoi. J'ai rarement vu des évaluations sans texte. Ça m'a tout à fait intéressé. Parce que comme pour l'argent, en général, on n'accepte jamais une somme d'argent sans négociation, c'est-à-dire sans production de phrases justificatrices. Et quoi qu'en dise Pierre, il y a toujours un calcul derrière. La question qu'on se pose même plus ou moins consciemment, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce que je vais l'accepter, ce truc? Est-ce que c'est pas, quand je dis juste, c'est pas juste au sens absolu du terme, fondamentalement juste, mais ça pourrait être juste par rapport à quelqu'un d'autre. Du genre, moi, pourquoi moi 236 et pourquoi lui 0? Pourquoi moi 236 et lui 500? On peut aussi penser le terme de justice en termes de justesse, en termes de diapason par rapport à toute une échelle. Et forcément qu'on se remet en question. La question qui m'avait intéressé dans cette histoire de notation, c'est que les notations sont toujours liées à de l'écriture. Elles sont toujours liées à une écriture justificatrice. Et on ne peut pas donner, attribuer quelque chose sans écrire autour. Pour la question de l'argent aussi, ce qui m'avait frappé, c'était, quand j'ai écrit ce livre, c'était essentiellement deux choses. La première chose qu'on peut constater, que moi j'avais constaté en posant des questions, comme je viens de le faire à Pierre et à Christopher, c'était que la plupart du temps, les gens ne savent pas définir ce qu'est l'argent. Quand on leur demande, on peut faire l'expérience avec vous. Si je demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est que l'argent, en général, cette personne soit reste quoi, rien à répondre comme définition, soit vous produit, quand elles sont des spécialistes de disciplines, vous produisez des définitions qui sont des définitions pas satisfaisantes parce que trop restreintes, très faciles à contredire, ou alors des définitions qui incorporent dans leurs termes même d'autres termes qui sont indéfinissables ou qui sont flous. Autrement dit, la première des choses qui m'avait frappé quand je parlais d'argent, c'est que c'était un concept flou. Un concept flou en philosophie, c'est un concept pour lequel on ne peut pas fournir simplement de définition. Je peux vous fournir ce qu'est la définition d'un fauteuil ou d'un micro. Et ça m'avait frappé. C'est un concept flou et c'est pourtant, comme l'amour ou comme le sexe, un concept sensible. Je veux dire par là que les gens en parlent tout le temps et que ça les obsède. Et c'était la raison pour laquelle ça me semblait un concept ou une notion, disons, poétique par excellence. Parce que quand on s'intéresse un peu à la poésie, on se rend compte que la poésie, ce qui la concerne, c'est de s'attaquer à des notions floues et sensibles, comme sexe, amour, poésie, liberté, justice. La chose qui était spécifique avec l'argent, c'est que souvent, on ne sait pas qu'on n'est pas capable de le définir. Et que quand on cherche à le définir, on va toujours produire des définitions comme ça, insatisfaisantes. C'est une sorte de concept flou qui s'ignore. L'autre chose aussi qui m'avait frappé et qui me semblait donc intéresser directement faire de l'argent, disons un sujet de poésie, c'était que l'argent, finalement, quand on essaie de l'attraper, de se dire on va quand même essayer de l'attraper comme un poète peut essayer d'attraper la notion d'amour en trouvant des dispositifs pour l'exprimer ou le représenter. La première des choses qu'on observe et qu'on a pu observer aussi aujourd'hui avec ces échanges, quand on a parlé d'échanges de mails, de termes inscrits sur des mails, acceptés, refusés, c'est que l'argent, c'est avant tout de l'écriture. Et d'une certaine façon, ça n'est que de l'écriture. La première des expériences qu'on fait avec l'argent, c'est que c'est une somme qui est écrite sur un bulletin de salaire. Alors ça, c'était assez fascinant. La deuxième chose qu'on a observé, c'est que cette somme, la plupart du temps, elle est elle-même liée à d'autres formes d'écriture. Je veux dire par là que si cette somme est inscrite sur le bulletin de salaire, c'est qu'elle est elle est liée à d'autres façons d'écriture, d'autres formes d'écriture qui nous engagent directement. Par exemple, le CV que j'ai envoyé, la négociation que j'ai préparée, que j'ai pu écrire, le contrat qu'on a rédigé, que j'ai par exemple signé pour obtenir la somme d'argent. Autrement dit, c'est des écritures qui sont ramifiées et qui sont liées à des formes d'écriture plus ou moins justificatrices, négociatrices, qui s'enchaînent les unes les autres. Mais ce qui caractérise l'argent en tant qu'écriture, c'est-à-dire cette somme d'argent qu'on va nous donner, ainsi que le contrat que je vais signer, par exemple, avec une entreprise ou une institution quelconque, eh bien, c'est que cette somme, à partir du moment où elle va être écrite, ou le contrat, à partir du moment où il va être signé, ça va être la réalité de l'argent. Elle va me contraindre. L'argent, c'est une forme d'écriture performative. C'est une écriture performative. Je veux dire par là qu'elle me contraint exactement comme quand je dis oui le jour d'un mariage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend de moi. Je veux dire par là que les négociations, elles sont peut-être codées, mais je peux jouer à ça. C'est un jeu de langage où il y a des règles qui sont plus ou moins connues. Et la première des choses que j'observais, moi, quand je travaillais avec mes personnages pour écrire l'argent, c'est qu'il y avait un certain nombre de personnes qui semblaient écrire mieux que d'autres ou maîtriser les règles de l'écriture de l'argent mieux que d'autres. Comme si on pouvait entrer dans l'écriture, dans ce jeu d'écriture de l'argent, avec, je dirais, une connaissance, une intuition du maniement de ces règles, meilleure ou moins bonne. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de regarder comment les gens jouaient ça. Comment les gens jouaient à ce jeu. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je me suis mis à poser des questions à Christopher et à Pierre. Comment ils parlent l'argent ? Le discours qu'ils tiennent, il est lié à quoi dans leur somme, dans leur revenu ? Comment ils se connectent ? Comment Pierre peut ou pas négocier ? Par exemple, il me dit « Moi, je fais de la philosophie, c'est pas pour de l'argent. » C'est pas une position que tout le monde a tenue. Il y a des gens qui ont fait de la philosophie pour de l'argent.
Ils s'appelaient les sophistes.
Ils s'appelaient les sophistes, qui ont développé une certaine façon, une certaine conception de la philosophie qui est relativement défendable. En tout cas, la question de l'argent se posait d'une autre façon que la tienne. Et un des, je dirais, le but de ce travail, c'était de trouver une sorte de position, un point de vue, à partir duquel je pouvais observer les différentes manières de jouer au jeu de langage ou au jeu d'écriture argent par différents types de personnes sur différents segments de revenus. Et en fait, ce que j'avais décidé de faire quand j'ai écrit ce bouquin, c'était de trouver un panel qui soit représentatif de, je dirais, l'ensemble de la société des Français. Et donc, dès le départ, je savais que j'allais interroger une centaine de personnes, mais qui allaient se distribuer dans les différents segments de revenus proportionnels aux segments de revenus que gagnent les Français. Je vous donne un exemple. J'ai divisé donc tous les revenus par segment de 200 euros, en démarrant des personnes qui gagnent entre 200 et 400, puis 400, 600, 600, 800... jusqu'à plus de 4500. Plus de 4500, ça correspond à, de mon souvenir, 13% de Français. 200, 400, 2%. 400, 600, 4%. Et à chaque fois, j'interrogeais 2, 4, 13 personnes. J'attendais de retrouver, de trouver des gens comme ça. Et comment je faisais pour faire venir ces gens pour pouvoir les interroger comme j'ai fait là? Ben, je faisais exactement ce que j'ai fait là. C'est-à-dire que des gens me demandaient, faisaient appel à moi pour faire ce que je fais là. Et je leur disais, écoutez, à la place de vous faire une lecture ou de vous faire une conférence, on va faire ce qu'on fait là. C'est-à-dire, on va parler concrètement de votre argent. Pourquoi vous avez accepté de venir pour rien? Comment vous pensez la somme zéro par rapport à la valeur de ce que vous allez faire ce soir? Et ça me donnait mon texte. Et c'est pour ça que les lectures étaient, ce que les gens appellent les lectures ou les conférences, étaient très utiles pour moi parce qu'elles me permettaient d'écrire mon livre et d'aller comme ça. Après, il y a eu un certain nombre de personnes qui étaient, je dirais, difficiles à attraper dans le monde qui était proche du mien. Et curieusement, c'était pas les personnes les plus pauvres ou les plus riches. Parce qu'il y avait pas mal de personnes assez riches dans les institutionnels de la littérature, par exemple. Pas mal de personnes qui gagnent autour de 4000, 5000 euros par mois. Il y avait beaucoup de très pauvres que je côtoyais ou qui faisaient appel à moi pour des questions d'écriture. Mais des moyens, assez peu. Les 14% qui gagnent 1400, 1600, ça n'a pas été facile de les trouver. Et voilà comment le livre s'est écrit. Le but pour moi, c'était vraiment d'avoir une sorte de supervision qui montre les différentes façons de jouer dans la situation. Les différentes techniques de justification, les différentes manières de penser l'argent, son écriture et les différentes façons de négocier. Ce qu'on me demandait, c'était pas forcément toujours des lectures et des conférences. Ce qui m'importait à moi, c'était de pouvoir m'incruster, me faire accepter dans des scènes où tout d'un coup des jeux d'argent pouvaient être exhibés. Ce soir, c'est une sorte de conférence-lecture, mais par exemple, je cherchais à m'incruster dans des scènes comme des rendez-vous chez un comptable, des négociations salariales auprès d'un employé, enfin d'un employé avec son futur patron. Mais parfois des choses plus subtiles, ou moins, comme par exemple simplement un cours de natation payant, ou des négociations avec des prostituées, ce genre de choses. C'est comme ça que le bouquin s'est écrit. Enfin, je crois que je vais déborder de la question.
Non, c'est pas clair.
C'est dur de reprendre. cette chose-là, bon, moi je pense que ce n'est pas ce qu'on appelle tout le même point de vue. Si, on peut définir l'argent. Il y a même un certain nombre de définitions d'argent, mais restons sur la question Je pense même assez grave de ne pas définir l'argent. Ah, je pense que ça fait partie, c'est toute la dimension idéologique de l'économie actuelle qui tend à réduire l'argent à un ensemble de notions, intermédiaire des échanges, une unité de valeur, une unité de compte, etc. Donc, de le réduire à une simple notation, un principe de comptabilité. Non, je pense que la manière dont l'argent est institué, dont l'argent est institué comme principe, c'est une relation entre, pour parler comme Marx, c'est une relation entre des hommes déguisés dans une relation entre les choses, et qu'il est un peu essentiel d'essayer de mettre au jour cette relation entre les gens. Que constitue la sphère de l'argent? Ne serait-ce que pour prendre un exemple très simple.
Merci.
Le système, le nouveau bac et les nouvelles réformes et la réforme par points, c'est une tentative assez claire de faire rentrer la pensée de l'argent dans le système de l'éducation, ou de faire que les élèves, depuis le début, pensent essentiellement en termes de points, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre. Du point de vue de l'université, c'est stupéfiant en 30 ans comment changer les étudiants. En fait, les étudiants d'aujourd'hui, effectivement, pensent dans les termes que tu dis, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Il y a 30 ans, c'était quand même infiniment moins le cas. Moi, j'ai commencé ma carrière universitaire il y a 30 ans, parce que je suis vieux, même dans les années 30, en fait, j'ai commencé. Mais, je plaisante, mais j'ai commencé il y a longtemps. Il y a quand même eu une révolution anthropologique qui est très très forte dans ce rapport-là. C'est-à-dire, je pense que l'idée que penser, c'est calculer, que Thomas Hobbes dit au XVIIe siècle, est une pensée qui longtemps a résisté et qu'on accélère pour justement réduire tout à cette matrice symbolique de l'argent. Et que la prise de la matrice symbolique de l'argent, c'est très saisissant, c'est généralement, et c'est intéressant dans la poésie. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, par exemple, dans ce livre-là, ou dans le poème de Christophe Tarkos. Christophe s'intéresse beaucoup à l'argent en poésie. Qui est un poème magnifique et problématique et troublant, comme ce livre est problématique ou troublant. C'est-à-dire, on ne sait pas du tout est-ce que c'est une critique radicale de l'argent, au fond, dans son geste même. Est-ce que c'est, moi, la première chose dont j'ai lu, et ce qui m'a le plus ému, c'est que c'est pas du tout un livre sur l'argent. Tant que tu es au-dessous de ceux qui gagnent 20 millions de dollars par mois, tu parles pas d'argent. Les gens, je pense, vraiment les hommes d'argent, et ce qu'est l'argent comme système de prédation, au fond, des biens publics. L'argent, ça sert à quelque chose pour moi depuis 30 ans, c'est un système de prédation des biens publics pour le transférer vers des fortunes privées. C'est à ça que sert l'argent essentiellement aujourd'hui. Donc quand on parle au-dessous des fortunes de moins de plusieurs millions de dollars ou d'euros, on ne parle pas d'argent. Et de fait, ce qui est très beau dans ce livre, c'est que c'est une série de gens, il y a quand même très peu d'écart. Entre 200 euros et 4000, c'est quand même très très peu par rapport aux écarts réels de l'économie actuelle. Et c'est des gens qui se dépatouillent avec le réel. L'argent là-dedans, c'est le réel. L'argent, c'est comment on fait pour vivre. Et donc, en un sens, c'est pas du sur l'argent, en un sens, c'est une critique radicale. En un autre sens, c'est la pointe avancée. Oui, enfin, les comparaisons que tu dis, c'est quelque chose de très intime. Et c'est intéressant de savoir comment l'argent vient à prendre prise et à capturer la sphère de l'intime. Bon, une des choses qui me fascine, c'est par exemple la phrase de Stendhal qui dit dans De l'amour au chapitre 19, quand il dit trouve à se vendre qui n'aurait pas trouvé à se donner. Bon, ça a fasciné Pierre Klosowski dans La Monnaie Vivante, mais tel trouve à se vendre qui n'aurait pas trouvé à se donner, c'est quand même l'idée que l'argent a cette puissance, et ça vaut très très fort dans l'art contemporain, a cette capacité à donner une valeur à des choses qui n'en ont rigoureusement aucune, à des pissotières ou à des boîtes de merde, etc. etc. Donc, ça permet de... Il y a un système d'évaluation, un système de prise sur notre jouissance, sur notre plaisir intime. Donc, j'ai pas l'impression que, comme l'amour, comme l'intimité, j'ai l'impression que l'argent est un appareil de capture qui vient saisir nos sphères les plus intimes et qui tente à se développer et à aller de plus en plus loin dans les sphères qui... jusqu'à présent avait pu être, et que là c'est un long mouvement qui a deux siècles et qui est en train de s'achever là, de faire qu'il n'y ait plus rien de réel qui ne soit pas monétaire. Mais ça, c'est une invention historique, il faut parler d'histoire, c'est pas quelque chose qui existe depuis longtemps, sauf du côté de la morale. C'est-à-dire qu'au fond, jusque là je me disais, les seuls qui sont obsédés par l'argent, c'est ceux qui s'intéressent aux questions de morale. Par exemple, je suis fasciné par l'évangile et par les évangiles, qui est l'une des premières critiques les plus radicales de l'argent. avec Platon, jusque-là, chez les, dans toutes les morales antiques, enfin, Moses Finney a bien montré ça, que ce soit chez les Juifs anciens, chez les Grecs anciens, l'argent confondu avec les biens matériels est toujours valorisé, dans l'Ancien Testament il est pratiquement toujours valorisé, mais ça pose problème dans l'île de Job, quand il n'y en a plus, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas du tout un problème, et ça devient un problème avec les évangiles. Or, les évangiles sont énoncés continuellement dans la matrice symbolique de l'argent. C'est-à-dire que le Jésus des quatre évangélistes et le Jésus des Actes des Apôtres ne pensent rigoureusement qu'à la thune. Et ils pensent que ceux à qui ils parlent ne pensent qu'à la thune, ce qu'ils sont dans des sociétés très peu monétarisées. C'est ça, la parabole des talents, la parabole des mines, la parabole de l'ouvrier de la 11e heure, il faut rendre à César ce qui est à César, etc. etc. Toute la morale, même le même qui dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, vient énoncer, placez votre trésor au ciel et non sur terre. Et c'est un énoncé monétaire ou en termes d'argent par lequel il énonce l'énoncé moral que l'argent c'est mal. C'est très très saisissant, par exemple, dans la parabole des talents ou des mines. C'est le talent chez Matthieu, les mines chez Luc, c'est ça. Qui est, en un sens, c'est une très belle parabole, je trouve, parce que c'est vraiment. On vous a donné un talent au départ qui l'a fait fructifier. Enfin, en termes pédagogiques, c'est bien, ouais. On aimerait que chacun, si on vous a donné un petit talent au départ, vous n'avez pas le droit de rien en faire. Et de l'enterrer, de le garder tel qu'il est, il faut le faire fructifier. Donc, en un sens, c'est très beau. Dans un autre sens, c'est déjà un raisonnement pré-capitaliste absolument infect. C'est-à-dire celui qui va être récompensé, c'est celui qui il a fait cracher au bassinet le talent qu'on lui a laissé, il en donne 10 au maître quand il revient un an plus tard. Donc, comme dit Longuel, en un certain sens, l'argent c'est le sang des pauvres, donc ceux qui ont rapporté les nouveaux talents, c'est quand même ceux qui ont été exploités par celui qui avait ce talent-là et qui l'a fait fructifier. En faisant travailler les autres grâce à son capital initial, pour avoir une vision marxiste un peu dure. Donc de ce point de vue-là, il y a cette puissance, et c'est l'un des enjeux pour la poésie, moi c'est la question que je voulais te poser sur la question de la poésie, c'est au fond, quelles sont les différentes stratégies poétiques? Est-ce que tu as hésité avec d'autres stratégies que la stratégie au fond de neutraliser l'argent en parlant, que de... finalement limiter la question de l'argent à une sphère où ils en parlent tout le temps, et les poètes comme les... Là, faut pas lire les correspondances, quand on lit les correspondances des poètes, ou des écrivains, ou celle de Proust, ou celle de... c'est assez insupportable, on ne parle que de ça tout le temps, tout le temps. Ou c'est supportable, on peut trouver ça amusant. Mais c'est pas sûr qu'il y a un moment, c'est un petit peu désespérant. Mais il faut qu'elles étaient les... Il y a des stratégies de neutralisation. Bon, en tout cas, la dénonciation, ça marche pas. La dénonciation, on retombe dans la morale, on fait plus de la poésie, et on essaie d'écrire un cinquième évangile et on emmerde tout le monde. Donc ça peut pas marcher. Et ça n'a aucun intérêt de critiquer l'argent, je crois, d'un point de vue politique. Mais alors, quelles sont les armes? Est-ce que tu as choisi celle-là au milieu d'autres, finalement la forme documentaire, ou est-ce que pour toi c'est la seule, ou est-ce qu'au fond tu n'es même pas sûr qu'elle soit bonne?
Non mais, ce qu'il y a d'intéressant avec l'argent, c'est qu'on nous piège dès qu'on en parle. Moi, ce qui m'avait frappé quand j'écoutais les gens en parler ou négocier entre eux pour en obtenir plus, c'était que quand ils en parlaient, et comme vient de le faire Pierre, l'argent en quelque sorte nous possède. C'est une sorte de démon qui nous fait parler, qui nous fait dire des choses et puis nous manipule, ou une sorte de syndrome de Tourette qui nous fait dire un certain nombre de choses. Par exemple là, Pierre, quand il a parlé d'argent, il a dû donner 3 ou 4 définitions de l'argent différentes, alors même qu'il disait que non, que ça se définit l'argent, mais oui, mais c'est l'argent des riches, des plus riches, parce que finalement, ceux qui gagnent entre 200 et 4000, au bout du compte, c'est la même chose. C'est quasiment, ça pourrait être un même segment. Alors, selon les points de vue qu'on adopte, on peut dire ça n'est pas de l'argent. Ça en est, mais ça n'en est pas. Mais moi, je peux t'assurer, Pierre, que pour les gens qui gagnent entre 200 et 400, ça en est beaucoup. Et je dirais qu'ils ont un rapport à l'argent qui est de l'argent pour eux. Il est question d'argent. Autre chose qui est intéressant avec l'argent, c'est la notion de calcul. Ça, c'est aussi un terme trompeur. Parce que quand Pierre parle de calcul, il me dit, oui, il y a 30 ans, on ne fonctionnait pas comme ça. Là, j'ai l'impression d'être face à des gens qui font des calculs en termes de profit et bénéfices. Donc, bénéfices et
coût-avantage.
Mais le terme de calcul, c'est un peu comme le terme de ready-made ou le terme de, je ne sais pas moi, le terme de paysage. Ce sont des concepts qui sont extrêmement vagues. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un calcul ?
Ah ben, un calcul, c'est une pensée qui est strictement quantitative.
Mais
c'est
oui,
une pensée qui n'introduit pas de différentiel qualitatif.
Tu vois, je dirais qu'un calcul, c'est le fait d'appliquer un certain nombre d'opérations sur un sujet. Les opérations, pour moi, la notion de calcul implique la notion d'opération.
Oui.
Et ces opérations, et c'est ça qui est assez fascinant, ces opérations ne sont pas toutes les mêmes. Les gens font des opérations concernant l'argent. Ce que toi tu perçois comme un calcul coût-bénéfice, eh bien, en réalité, quand tu te rentres dans les scènes et que tu regardes les gens fonctionner, tu te rends compte qu'ils appliquent des opérations sur des situations qui ne sont pas celles que tu peux anticiper toi. Et que d'un segment à l'autre, ça fonctionne complètement autrement parce qu'ils pondèrent les éléments de valeur de façon complètement différente. Par exemple, Pierre 16000, mon camarade Borgne qui venait prendre des cours de philo chez moi, avait la manière dont il calculait, par exemple, l'argent quand il... Parce que c'est lui qui négociait avec des prostituées, il était complètement borgne. Il ne pouvait pas... Il pensait ne pas pouvoir avoir d'autres relations, je dirais, érotico-affectives qu'en payant. La valeur de l'argent, pour lui, étant donné son handicap, le type de construction de son propre ego et la manière dont il se construisait et dont il essayait de construire de l'argent, tout ça déterminait des formes de calcul totalement étranges, extrêmement difficiles à décrypter. C'est très difficile de percevoir de l'extérieur qu'est-ce que c'est qu'une opération. Ça, c'est quelque chose qui est fascinant, je dirais, quand on s'intéresse à l'écriture. On nous a appris à faire des divisions et des multiplications. Comment on nous l'a appris ? Est-ce que vous vous souvenez du moment où tout d'un coup vous avez compris comment on divise ? C'est pas forcément très simple. C'est souvent un travail qu'on fait par ostension, on vous montre les choses. Tout seul, c'est très difficile. C'est un peu comme quand, par exemple, vous avez des gens qui prétendent apprendre le coup de fou dans les livres, ou le piano dans les livres. On peut pas le faire. Il y a quelque chose qui fonctionne par porosité, par ostension. Il faut qu'on vous le montre. Et là, vous comprenez. Et moi, ce qui m'intéressait dans cette situation d'argent, c'est la raison pour laquelle je voulais entrer dans des scènes d'argent comme celle d'aujourd'hui, mais comme avec Pierre qui est, j'imagine, je ne sais pas dans quel segment tu es, mais tu dois être dans un segment qui est plutôt plus...
3000.
Voilà. Donc tu es plutôt parmi les plus riches. Tu serais dans les plus riches dans mon livre. Mais ceux qui sont entre 400 et 600, 600 et 800, ils n'ont pas du tout le même rapport, la même façon de construire les opérations. Et justement, la manière de pondérer entre ce qui est une valeur quantifiable et ce qui ne l'est pas. Et la construction des justifications et leur manière de les combiner est complètement différente. Parce que vous avez des gens dans ce livre qui vous le disent clairement, moi je décide pour telle ou telle raison de rester dans ce segment, et ils ont des systèmes de justification qui peuvent être perturbants vu de l'extérieur. Alors, je vais dire un truc tout bête et tout simple, mais en même temps je sais pas si c'est peut-être un peu polémique ce que je vais vous dire. Ce que je crois, moi, c'est que la poésie, enfin moi ce qui m'intéressait dans la poésie, c'était de m'attaquer à ces notions floues qui reposent justement sur des systèmes de justification que moi j'appelle des opérations de langage, dont le régulation n'est pas claire. Exactement comme quand vous êtes un extraterrestre, que vous arrivez dans une classe de primaire et que vous voyez des gens faire des divisions au tableau, vous ne savez pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils distribuent n'importe comment les nombres, ou alors est-ce qu'il y a une règle ? Et cette règle, est-ce que je peux la comprendre si je viens de Mars et que je regarde quelqu'un tracer une division ? Voilà. Ce que je voulais, c'était me retrouver dans des situations où je voyais plusieurs personnes faire des opérations différentes de justification comme ça, et voir comment ils construisent leur rapport à l'argent de cette façon-là. Ce que je crois, c'est que... Enfin, moi, si je fais de la poésie, c'est parce que je pense que c'est que ça, la poésie. que la poésie, ce qui la rend intéressante, pour moi, ce qui m'a toujours intéressé chez elle, c'est qu'elle est capable de donner consistance à des notions floues. Et je dirais que c'est la seule chose qui me l'a rendue intéressante depuis que j'ai 50 ans, bientôt. Et je dirais que si la poésie m'a intéressé dans la vie, c'est parce qu'elle avait ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'on vit au milieu de notions floues qu'on utilise sans arrêt, qui sont obsédantes, comme l'a dit Pierre. On parle tout le temps d'argent, les écrivains en parlent tout le temps, mais pas que. Demain, allez sur une terrasse de café, écoutez, laissez traîner vos oreilles, écoutez ce que se disent les gens. Ils parlent sans arrêt d'argent, de prix. On dirait que des théories de certains économistes de droite sont vraies, qu'il n'y a que les prix qui comptent dans la vie. Ils parlent de prix, de bons coups qu'ils pourront faire justement pour ne pas payer le prix, etc. C'est une discussion absolument obsédante. Autrement dit, c'est le sujet sensible, et c'est aussi, comme moi je le crois, une notion floue. C'est-à-dire que la même personne qui va passer trois quarts d'heure sur une table à parler d'argent, enfin, en tout cas de prix, si vous lui posez la question « c'est quoi l'argent ?», il ne vous fournira jamais de définition acceptable. De la même façon que si vous tombez sur un type qui parlera que de cul ou de sexe, obsédé par ça, si vous lui dites « mais c'est quoi vraiment le sexe en fait ?» Est-ce que c'est... Il ne pourra pas vous dire ce que c'est concrètement. C'est, évidemment, il vous dira « oui, c'est lié à ceci, c'est lié à cela », mais il ne pourra pas vous dire ce que c'est. Autrement dit, c'est une notion qui n'est pas comme micro, table, bouteille. Ça fonctionne autrement. On ne peut pas en fournir des définitions, c'est pas satisfaisant. Et alors pourquoi ça ne l'est pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est sensible et flou. Et ce que j'ai constaté, c'est que la poésie ne nous fournissait pas de définition, évidemment, de ces notions qui sont sensibles et floues, mais leur donne de la consistance. Je dis par là que, par exemple, la notion de liberté est sensible et floue. Je n'attends pas d'un poète qui me dise ce que c'est que la liberté, mais tout d'un coup, quand je lis tel poème que tout le monde connaît de Paul Éluard, la notion de liberté prend consistance. Maintenant, vous allez me dire, mais ça veut dire quoi réellement prendre consistance? Là, je ne saurais pas trop vous dire non plus, mais je sais ce que c'est. J'en fais l'expérience. Et je peux voir aussi dans la vie ordinaire des usages de la consistance. Je vais vous en donner un, et puis on va peut-être s'arrêter là pour discuter. Regardez. À chaque fois que vous produisez un discours qui n'a pas beaucoup de consistance, pas beaucoup de sens, très fréquemment, vous voyez des tentatives de donner de la consistance en incluant, en injectant de la poésie. Un bon exemple que vous pouvez trouver de ça, c'est les discours des hommes politiques. Très souvent, les hommes politiques produisent des discours inconsistants, sur le plan conceptuel très, très creux, donc, qui ne vous apprennent pas grand-chose, ou qui sont ce qu'on appelle de la langue de bois. Et comment ils font pour rattraper le coup? Ils font des citations de grands auteurs. Il y a un universitaire qui travaille sur cette question. Ouais, il s'appelle Olivier Calais. Il travaille sur la façon dont Marine Le Pen, Mélenchon, Macron utilisent des citations de grands poètes. Mais précisément pour... Alors lui, il utilise le terme de pondérer. Il dit que ça pondère. Moi, je dirais que ça, c'est pas que ça pondère, c'est que ça essaie de donner soudain, localement, une sorte de consistance à des notions qu'ils utilisent, eux, normalement, dans le discours, de façon absolument inconsistante.
Peut-être que tu peux rappeler que tu t'entends consistance au sens logique, c'est-à-dire non trivial. Ah, quelque chose d'articulé, ou alors tu l'entends dans un autre sens.
Il faudrait travailler sur cette
notion. Logiquement, la consistance, c'est le non trivial. C'est pas un discours tout.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est fournir une définition en compréhension de la notion, mais je dirais que ça se sent d'abord, c'est d'abord une expérience discursive. C'est toute la différence entre Macron qui parle de liberté ou d'équité, de justice, et puis tout d'un coup, Éluard qui parle de liberté.
Ouais, pour moi, quand Éluard parle de liberté, si on pense au même poème, c'est pas très éloigné du discours de Macron.
Moi, je trouve que pour la plupart des gens, c'est très éloigné. Je suis pas en train de faire une défense d'Éluard, qui est pas mon poète préféré, mais je pense que l'expérience qu'on en fait est très différente. Et je pense que c'est pas du tout par hasard qu'il convoque Victor Hugo, c'est souvent Victor Hugo le plus souvent convoqué. C'est pas du tout par hasard qu'il, d'ailleurs pas forcément de la poésie au sens scolaire du terme, mais c'est cette dimension poétique qu'il convoque pour produire un effet de consistance. Alors il faudrait analyser ça, mais j'ai l'impression quand même cette expérience, on l'a fait. À mon avis, c'est ça l'intérêt de la poésie. Alors, je vais vous dire, pour moi, plus concrètement ce que c'est que l'effet de consistance. Ce qui m'a vraiment... ce qui a modélisé pour moi ça, c'est un conte de Ernst Theodor Hoffmann, qui est un auteur de fiction romantique allemand, qui a écrit un conte qui s'appelle La leçon de violon. Est-ce que peut-être quelqu'un connaît ce conte, La leçon de violon ? Non ? Ah, c'est assez fascinant. Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui est visiblement un aristocrate, qui reçoit chez lui des grands violonistes de toute l'Europe. Il les reçoit chez lui non pas pour qu'ils jouent du violon pour animer les salons, mais il les reçoit chez lui pour leur donner des leçons de violon. C'est un peu comme, je sais pas moi, je sais pas si Joshua Bell venait chez vous et il venait prendre un cours. Donc il reçoit chez lui les plus grands violonistes pour leur apprendre le violon. Et donc le narrateur, c'est un jeune violoniste surdoué qui est, comment dire, enjoint par ses collègues d'aller prendre une leçon chez ce comte, qui est un magnifique professeur de violon, qui déjà connaît tous les autres violonistes, et il y va. Et là, il discute violon, il se rend compte qu'effectivement, il a connu tous les grands violonistes de l'époque, Tartini, et il prend une leçon de violon, c'est-à-dire il joue un peu, le comte lui donne quelques conseils, et puis il prend son violon, et il va lui montrer comment on fait. Et là, il joue, et le violoniste, le jeune virtuose, se rend compte qu'en réalité, il ne sait pas du tout jouer. Il est incapable de jouer correctement un accord, même une mesure, mais cela dit, il a quand même une connaissance incroyable du violon. Il est capable de dire des choses très précises sur le jeu des autres. Et alors, je dirais que c'est ça la consistance. La consistance, c'est le fait d'avoir une sorte de position de supervision. Pourquoi cet homme sait tellement de choses sur le violon ? Parce qu'il occupe une position qui lui permet d'expérimenter tout un tas de jeux, de voir et de pouvoir transformer en description tous ces différents jeux de tous ces violonistes qui sont passés chez lui, qu'il a vu jouer et à partir desquels il a pu se faire une expérience extrêmement variée, avoir des expériences extrêmement variées de ce que c'est que jouer du violon, et de pouvoir transformer ces expériences en une méthode discursive de comparaison et d'application à chaque nouveau cas qui se présente. Je dirais que ce serait, pour moi, c'est ça, ce que permet peut-être le travail de poésie, c'est le gain, ou la, comment on pourrait dire ça, l'obtention, le fait de trouver quelque chose comme un point de vue qui permet une certaine forme de supervision. C'est ça la consistance. Ça ne veut pas dire que vous savez, au sens scientifique du terme, jouer le jeu mieux que les autres, parce que le comte ne joue pas bien du violon. Il peut en dire quelque chose, il en a un certain savoir, utile, qui est intéressant, qui a son intérêt, mais qui n'est pas monnayable immédiatement en termes de concertiste. Ce serait ça pour moi, la consistance. C'est comme ça que je la vis et c'est comme ça que je l'ai senti avec la poésie. Et l'autre, par exemple, si j'essayais de donner un autre exemple hein, de position comme ça, qui serait trouvée par un poète, pour moi, le meilleur exemple, c'est celui de Dante, par exemple. Il trouve un point de vue pour aller observer ce que c'est que l'autre monde. Et en donner quelque chose qu'on pourrait appeler une supervision.